En fait, quand j'ai découvert les jeux vidéo à l'époque, je pensais pas que j'y jouerais encore, enfin, je jouerais encore au même type de jeu autant d'années plus tard, tu vois. C'est ça qui me fout un peu le vertige limite, en me disant putain, ça m'a plu à un tel point que ça me suit encore maintenant, quoi.
Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et parce qu'on change pas une équipe qui fait match nul, je suis toujours accompagné de Yann.
Hello!
Et pour ce nouvel épisode, on reçoit quelqu'un dont j'apprécie particulièrement le travail. C'est quelqu'un que je suis depuis des années, et ça fait des années aussi qu'on essaie d'aller voir dans le podcast. Donc je suis très content et honoré qu'il ait accepté l'invitation. Notre invité du jour, c'est Le Règlement. Si vous n'êtes pas familier avec son travail, Le Règlement est un youtubeur, vidéaste et streamer qui est passionné de musique et plus précisément de rap. Sur sa chaîne, vidéo après vidéo, il analyse, dissèque et décortique des artistes, albums ou courants en lien avec le genre musical numéro 1. Youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, Le Règlement a su faire évoluer son contenu au fil des temps. Et au-delà des analyses, il produit aussi des freestyles et des documentaires, design des vêtements. C'est un passionné de technologie et de jeux vidéo. Et en 2022, il a lancé Rules, un jeu de cartes à collectionner dédié au rap, utilisant la blockchain, et dont 50% des revenus sont reversés aux artistes indépendants. Comment tu vas aujourd'hui, le R?
Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, grosse journée, mais je suis super content parce qu'on va parler de jeux vidéo, donc c'est la récréation pour moi.
Très cool. Encore une fois, je te le redis, on s'est dit en off, mais merci d'être là. Ça fait un bail qu'on a envie de parler jeux vidéo avec toi. Et je sais que tu fais très peu d'interviews, donc c'est vraiment cool de t'avoir aujourd'hui.
Ouais, bah c'est vrai que j'essaye de rester discret au maximum, mais bon là c'est vrai que j'aimais bien l'occasion de parler un peu de jeux vidéo. Ça me change aussi de ma chaîne où je parle surtout de musique. Et donc c'est comme c'est une passion à moi aussi, voilà, ça fait plaisir d'être là.
Parfait. Bah sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour commencer, on va retourner 21 ans en arrière avec Super Mario Sunshine. Développé et édité par Nintendo, Sunshine, c'est le deuxième Super Mario en 3D après Mario 64 quelques années plus tôt. Il est sorti en octobre 2002 en Europe sur Nintendo GameCube. Première question pour toi, avant même de parler de Sunshine, j'ai l'impression que c'est important qu'on s'attarde un peu sur la GameCube et ce que cette console représente pour toi.
Ouais, carrément, c'est ma console préférée. Bah déjà, c'est une époque, bon moi, où c'est mes années collège, lycée, où les consoles c'était super important à l'époque. C'était la génération PlayStation 2, GameCube, Xbox. Donc c'est là où un peu chacun choisit son camp, etc. Bon, moi j'ai beaucoup joué aussi aux autres consoles, mais celle que j'avais chez moi, c'était la GameCube. C'est que j'avais, en fait, c'est la première console que j'ai vraiment choisie parce qu'avant ça, j'avais une Play 1. Que j'avais, enfin, j'étais tout petit et je voulais juste une console et mes parents m'avaient acheté ça parce que c'était la console à la mode ou, mais je n'avais pas vraiment choisi. Et avant ça, joué sur le Mega Drive de mon oncle. Mais là, c'était vraiment, genre, j'avais attendu la console, attendu sa sortie pendant, je sais pas combien de temps, un an. J'avais économisé, j'étais prêt à l'acheter, je savais le jeu que je voulais à la sortie, etc. J'étais fin prêt, quoi. Et donc, en fait, ma personnalité se définissait un peu plus par rapport à mon choix de console à ce moment-là.
Okay.
Et je pense que ça m'a donné raison parce que même si je crois que la console s'est pas si bien vendue à l'échelle de Nintendo et tout, mais par contre au niveau pour moi c'est vraiment que des classiques cette console-là, les jeux qui sont sortis dessus là, on va en parler de quelques-uns, mais en fait il y a eu trop de classiques sur cette console-là en particulier et je trouve que ça a jamais été égalé sur une console Nintendo et même sur une console en général. Pour moi le nombre de titres classiques qui sont sortis en quelques années est assez incroyable.
Ça explique peut-être les prix. Aujourd'hui, des jeux sur GameCube, c'est tellement plus cher que même c'est plus cher qu'un Nintendo 64
Ah ouais?
en
J'avoue, j'en ai pas racheté récemment. J'ai toujours ma bibliothèque moi, de l'époque, mais j'ai racheté une GameCube par contre. J'ai racheté une GameCube parce que j'ai vendu ma GameCube quand la Wii est sortie parce que la Wii lisait les jeux GameCube. Et au final, ma Wii, elle a fini fracassée par mon petit frère et du coup, j'ai dû racheter une GameCube ensuite d'occasion il y a, je sais pas, 4-5 ans pour pouvoir continuer à jouer à mes jeux.
Tu parlais là au moment de l'achat de la GameCube, tu savais directement le jeu que tu voulais, c'est lequel que t'as acheté en premier pour le coup?
Alors, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais je crois que j'ai. Dans ma tête, j'ai le pack Wind Waker en tête, mais il me semble que je l'ai eu avant, en fait. Ça, c'est un pote à moi qui avait ce pack-là. Et du coup, là, tu me poses une colle, en fait, je sais même plus quel jeu, au final. Je me souviens que j'avais réfléchi, mais alors, quel jeu j'avais. C'était quoi les jeux de la sortie? Il y avait Star Fox Adventures, il y avait Star Wars, et il y avait quoi d'autre?
Je vois un truc coloré, mais j'ai pas envie de dire de bêtises.
Animal Crossing.
Animal Crossing, c'est un jeu que j'ai grave attendu à l'époque sur GameCube. Mais il est sorti après. Il est sorti après.
Ouais, il est sorti après.
Donc j'étais un peu fait un faux espoir parce que en fait je sais pas si je l'avais. Mais par contre en fait le truc c'est que c'était il y a quand même très longtemps donc tout se mélange un peu dans ma mémoire au niveau de la temporalité. Par contre les jeux j'ai énormément joué à l'époque et j'y joue énormément aujourd'hui donc en fait pour moi c'est la console elle me suit toute ma vie quoi.
OK. Bah du coup justement reconcentrons-nous sur Mario Sunshine.
Ouais.
C'est vraiment cool que t'aies ce Mario dans Stop. Je pense que c'est t'es la première personne dans tout le podcast à nous proposer Mario Sunshine. J'ai l'impression que c'est un peu un Mario mal aimé.
Hein.
il est un peu entre Mario 64 et Mario Galaxy. Du coup, enfin, il est pas forcément choisi. Il est peut-être aussi mal aimé. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qui en fait un jeu marquant pour toi?
Beaucoup de choses. Déjà, quand tu me dis Mario Sunshine, je pense directement à la place Delfino, l'endroit où tu arrives dans le jeu au départ et où tu te balades.
Ouais.
Et juste le soleil, la mer, les palmiers. En fait, l'endroit est trop. C'est l'endroit que je préfère au monde, quoi. C'est l'endroit où j'aime me balader. Et même, ça peut m'arriver, juste de, même encore aujourd'hui, de me balader dans la map sans rien faire. Enfin, juste un peu à la GTA, sauf qu'il n'y a même pas de voiture à voler, quoi. Tu peux te balader et prendre un ananas, arroser, aller chercher le Yoshi. Mais en fait, juste la musique, les reflets blancs sur l'eau, le soleil, les mouvements, en fait, juste le gameplay de Mario, le fait de pouvoir glisser sur le sol, de pouvoir sauter sur les murs. Je sais pas, rien que là, je te parle même pas d'un niveau, juste là, j'adore juste l'environnement du jeu.
Okay.
D'ailleurs, petite anecdote, il y a un an, je suis allé à Venise et j'ai pété un câble. En fait, ça ressemble à la place Delfino. Et en fait, dans ma tête, Venise, c'était un truc, tu vois, genre, je sais pas, froid, un peu à l'ancienne, du Moyen-Âge et tout. Et en fait, je suis arrivé en plein été à Venise et ça ressemble énormément avec les canaux. Enfin, je pense que ça a été une des inspirations principales, en fait, avec les canaux, la forme des bâtiments et tout.
C'est
et du coup, j'ai mis la musique de Mario Sunshine à fond. Bon, ma meuf était désespérée que je fasse ça, mais en tout cas, j'étais vraiment très, 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 très heureux à ce moment-là. Voilà. Donc, déjà, le premier truc, c'est ouais, l'environnement. En fait, c'est la DA, je dirais, de Mario Sunshine. J'adore et je ne l'ai jamais retrouvé dans un autre Mario. Enfin, un truc qui me plaît autant.
Ok, mais je te comprends totalement. Là, du coup, nous, on est à Montréal avec Yann. Il a neigé hier. Et vraiment, quand j'ai lancé Mario cette semaine et tous les jours un peu, genre, je te dis, je comprends cette ambiance, le soleil. Enfin, tu t'évades vraiment. C'est vraiment très, très cool à retrouver.
Ouais, à la fin, tu peux débloquer les lunettes de soleil et la chemise. Donc, t'es encore plus un petit touriste, quoi. Enfin, c'est trop agréable, quoi.
C'est vrai que, quand je dois me concentrer pour travailler, je me mets soit The Wind Waker, soit Lofi, Place Delfino, enfin, tous ces trucs-là, c'est tellement good vibe, c'est vrai. T'as envie d'écouter ça et puis tu t'en lasses pas. Puis là, quand tu l'as dit, je l'ai dans la tête.
Ouais, la musique, elle est incroyable.
Ouais.
Donc, non, c'est ça avant tout. Après, je trouve qu'il y a ce côté, tu vois, environnement, lore et tout que j'adore. Enfin, j'aime les univers Nintendo, j'adore de base. Mario, j'aime particulièrement. Et en plus, là, Mario Sunshine, j'aime encore plus parce que, voilà, comme ce que je vous ai dit, le délire soleil, les piantas qui se baladent, les courses de calamars, les ananas, les Yoshi colorés. Tu vois, tout ça, je trouve que c'est trop agréable, quoi.
Mm.
Et après ça, il y a aussi le côté gameplay et challenge du jeu que j'ai adoré. Donc le truc de jetpack qu'ils ont jamais refait au final pour moi est vraiment vraiment incroyable, peut-être un peu plus un peu moins punitif que les autres Mario parce que tu peux te rattraper de tes sauts, donc un peu plus facile d'une manière, mais en fait si tu quand tu joues vraiment beaucoup tu commences à faire des moves qui sont quand même assez évolués et qui sont vraiment cool. Donc voilà, ça m'a plu beaucoup, tout ce que tu fais avec le jetpack, les différentes variations du jetpack ou même des trucs un peu bien pensés, genre tu jettes de l'eau par terre, ben ça te permet de glisser, enfin ça c'est... Je sais pas, à l'époque, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment pété mon crâne, je me rappelle. C'est fou, quoi.
C'est trop marrant que tu parles de ça, parce que moi, vraiment, j'ai découvert ce move cette année en y en jouant au jeu. Genre, je savais pas, à l'époque de GameCube, je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Peut-être que mon frère le savait, incroyable. Et il me l'a pas dit, mais...
Ah, le bâtard.
Du futur, quoi.
Mais dans le développement du jeu, il me semble que Nintendo avait dit que, en gros, Mario était trop une savonnette. Et qu'il leur fallait une solution contre ça. Ils n'arrivaient pas à faire des 3C, enfin, tu sais, des mouvements qui étaient assez efficaces. Et du coup, ils avaient rajouté la truc. Donc, quand tu dis c'est moins punitif, je pense que c'était le but. C'était d'avoir, genre, cette espèce de jetpack qui permet à Mario de, vu que les mouvements de Mario sont un peu complexes. Mais je sais pas si est-ce que tu as rejoué il y a pas longtemps ou pas?
Alors, oui. Il y a 2 ans, je l'ai refait à 100%. Ils l'ont ressorti sur Switch.
Ouais.
Du coup, j'ai refait les 3 Mario et particulièrement celui-là. Et j'avoue que je me suis bien fait chier à refaire toutes les pièces jaunes, toutes les pièces bleues, toutes les shines et tout. Et quand on dit pas punitif, il y a quand même des niveaux où t'as pas le jetpack. Ouais.
Exact.
Et il y a moyen de s'arracher quand même des cheveux.
Ouais. Bah, c'est exactement pour ça. Ouais.
Mais j'ai trop kiffé le refaire. Et je suis vraiment allé jusqu'au bout. J'ai tout fait. Il y a un shine qui est vraiment, vraiment très difficile. Je sais pas si vous l'avez fait récemment, mais c'est celui où tu dois partir avec le Yoshi, aller sur le radeau.
Ah oui.
Et ensuite, tu arrives sur une petite île.
Mm.
Et ensuite, le shine s'appelle le Lilypad Shine. Et c'est en gros, si tu touches l'eau, tu meurs.
Mm.
Et du coup, faut avancer sur des nénuphars. Il y a des pièges où, genre, si tu rentres dans un truc, ça te ramène au début. Et en fait, le truc, c'est que dès que tu meurs, tu reviens à la place d'Elfino et genre je pense que ça prend à peu près une demi-heure d'aller prendre un Yoshi et de traverser avec le Yoshi, parce que le Yoshi, s'il touche l'eau, il meurt aussi. De traverser genre les péniches, il faut que t'attendes les péniches sur une île, ensuite tu prends les péniches et t'attends, puis tu vas jusqu'au truc, et après si tu remeurs, bah faut, enfin si t'as plus de vie, tu dois y retourner. Et du coup ça m'a pris je crois peut-être 2 jours à le faire celui-là, et j'ai vraiment fini par péter mon câble et par trouver un glitch avec le Yoshi qui me permettait de passer à travers les bâtiments, de passer sous l'océan et de remonter sur l'île, parce que j'en avais marre d'attendre les péniches pendant une demi-heure. Donc j'ai fini par faire un glitch super compliqué au final, mais après j'étais super fier, quoi.
Je vois très bien sûr. Mais il y en a pas aussi un peu avec les péniches de la même façon, où tu dois récupérer un fruit qui est sur une île pour l'amener à quelqu'un, mais c'est le seul endroit où il y a ce fruit là autour de la place Delfino? Je me rappelle un truc comme ça. Ou c'est peut-être un panier.
Oui, oui,
tu rentres dans le panier.
Non. Si, t'as raison. Il y a un truc avec les fruits. C'est sur l'île qui est, c'est la première île, ouais. Mais en gros, pour le Lilypad Chain dont je viens de parler, tu dois aller sur cette première île, puis attendre une deuxième péniche, parce qu'il y a 2 péniches qui se croisent. Et la deuxième péniche t'emmène sur la deuxième île.
Ouais.
Et sur la deuxième île, une fois que t'es là, là, t'as le truc pour rentrer, pour aller faire le Lilypad Chain et qui est un niveau vraiment pensé pour te faire péter un câble, quoi.
Ça, et je repense aussi à l'énorme oiseau de sable, là. Tellement, tellement chiant.
Ah, l'oiseau qui vole, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Et qui tourne sur lui-même et tu dois te positionner.
Exactement. Ouais. Des fois, il est genre tout droit et t'es obligé d'utiliser la buse pour justement essayer de te mettre entre les recoins et tout. Fin...
Ouais, c'est ça. Non, ils ont fait des trucs de fou. Hein.
Mm.
Et là, heureusement que t'as la buse, ouais.
Tu tombes, tu meurs, non, on est d'accord, bien sûr.
Ouais, c'est tu tombes dans le
vide. Tu tombes dans le vide, c'est ça. Ouais,
ouais, il y a quelques niveaux assez corsés, c'est clair. Après, j'ai un peu moins joué à ceux d'après, donc je sais pas s'il était plus ou moins dur que ceux d'après, mais enfin j'ai fait quand même du coup Galaxy dans les 3 de Switch là. Mais j'ai trouvé Galaxy plus facile. Mais après, je sais pas si peut-être que juste que j'étais chaud parce que je venais de me faire Sunshine en entier, mais
bon, Galaxy est quand même très simple. Enfin, moi aussi quand j'y avais joué, j'ai trouvé que la difficulté était pas très haute, mais je pense que Sunshine est très compliqué.
Ouais.
Les mouvements de Mario dans Sunshine, sans la buse, mais d'ailleurs, c'est les niveaux un peu puzzle, enfin, les parcours un peu que tu dois faire.
Ouais.
Bah, ceux-là, parfois, tu les fais avec ta buse, t'es en mode, oh, c'est tellement simple. Et puis derrière, t'as le niveau où, genre, le mec te le prend.
Ouais, c'est ça,
là, Mario. Et là, tu tentes de refaire. Et en fait, dès que tu te rates, c'était dans le vide. Donc, c'est terminé.
Ouais, ouais.
Et quand tu dois faire ça avec les pièces rouges, c'est genre, ça... genre, il y avait des moments où, genre,
ouais.
Des après-midi.
Et parfois, t'as un temps limité aussi.
Oui.
Pour le faire.
Oui, oui, en plus.
Et du coup, ça, ouais, ouais. Bah là, quand je l'ai refait il y a 2 ans, il y a des niveaux où j'ai vraiment mis beaucoup de temps à réussir. Hein. Enfin, après, c'est cool parce que tu tryhard, tu refais plein de fois le même niveau et au final, t'avances un peu plus et c'est quand même assez satisfaisant, je trouve. Mais effectivement, parfois, tu t'arraches un peu les cheveux sur les mouvements et tu finis par, je sais pas, par t'habituer à ce truc un petit peu imprécis de l'atterrissage et tout.
Ouais, ça. Ouais, tu t'y habitues, mais je me rappelle avec un pote les après-midi entières qu'on passait à essayer de faire le parcours. Tu sais, on passait une après-midi entière, puis on n'avait pas réussi. Voilà, c'était à demain, on réessayera, et puis c'est tout.
C'est terrible. Et en plus, volontairement, il savait que c'était dur, parce que la plupart du temps, dans ces niveaux-là où Anti-Mario te vole ta buse, t'as des vies, genre ils savent que tu as raté plein de fois, tu vois. Ils te mettent des vies à des petits endroits du parcours en mode.
Oui, tout à fait. Mais parfois,
tu vas mourir.
Parfois, tu te dis, vas-y, je vais chercher la vie, mais tu meurs en allant chercher la vie.
Oui.
Alors là, tu casses tout, là. Quand ça arrive ça, tu casses tout.
Ouais.
Et c'est un peu aussi, tu te mets à faire un parcours où, en fait, à chaque fois, tu vas chercher la vie avant de continuer. Et tu sais, au bout d'un moment, tu sais, ça fait 50 fois que tu le fais. Et du coup, si tu vas pas chercher la vie, en fait, tu peux pas redémarrer à l'infini, du coup tu perds des vies, puis tu meurs. Et à un moment tu fais vas-y cette fois-ci c'est bon, et tu sais tu passes tout droit sans passer par le truc de la vie et tu meurs juste après, et t'es là non. Ça c'est ouais, de bons souvenirs.
Et puis ce niveau-là fallait y arriver aussi, hein. C'est-à-dire que c'était pas juste tu commençais le niveau, c'était à ça, c'est d'abord fallait prendre, je sais pas moi, genre le jetpack, le machin, monter à un endroit, rentrer dans une grotte et là le truc démarrait. Donc en fait t'avais pas envie d'avoir le game over parce que tu savais à quel point ça allait être chiant juste d'y retourner.
Ça c'était malin pour le coup, hein. Ça c'était malin, je trouve, comme truc, parce que tout coûtait un peu, tu vois. Il y a certains jeux maintenant où je trouve, bah, tu peux juste restart ou choisir dans le menu le niveau que tu veux faire, et du coup, il y a moins d'enjeux si tu perds. Voilà, bah, écoute, ça c'est en gros les trucs principaux qui me font que ce jeu est classique pour moi. Après, on peut rentrer dans le détail de tous les niveaux si vous voulez, mais la course de calamar est quand même incroyable. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez.
Si, avec des calamars différents.
Ouais, c'est ça. Rien que graphiquement, le fait de pouvoir rider les calamars, je trouve ça trop stylé. Tu sais, l'eau qui se fend en deux, avec les petites vagues qui apparaissent des deux côtés. Enfin, c'est juste trop trop cool de se balader comme ça sur l'océan. Je trouvais ça génial. Et la course est assez dure. La course à l'intérieur, si tu veux faire les bons temps et tout, c'est assez chaud. Il faut sauter par-dessus les murs et tout. Bref, je trouvais que c'était marrant, tu vois, d'avoir des petites variations aussi de gameplay. Pareil, le niveau dans le Grand 8, où tu dois tirer sur des ballons. Et du coup, il y a quelques petites variations aussi. Et là, pareil, tu dois jumper jusqu'en haut du Grand 8 pour le commencer. Donc, t'as un peu la flemme si jamais t'arrives pas à taper tous les ballons, tu dois repartir.
Les pires niveaux, c'était les niveaux où tu devais nettoyer.
J'allais justement y venir.
Vraiment.
J'aurais aimé qu'on n'en parle pas.
Les speedrunners, j'ai vu, ils ont un truc de ouf, tu sais, ils font des petits trucs, donc du coup, ça fait juste des splashes partout, et ça nettoie, mais...
Je sais pas faire ça.
Non, moi non plus, c'est des professionnels du nettoyage. Moi, je suis là, je vise et je mets toute l'eau que je peux, ça ne retire pas la tâche, tu sais, parfois, t'avais le petit truc qui restait, tu sais, genre...
Ouais, shout out au mec qui speedrun Mario Sunshine, il y en a qui le font encore actuellement, il y a un mec qui s'appelle Average Trey, tous les jours, sur Twitch, il est sur Mario Sunshine, donc je regarde assez régulièrement. Mais lui, c'est un malade. Mais ouais, les niveaux où il faut nettoyer, c'est les pires. Et le pire du pire étant le niveau Raymanta. Je sais pas si vous l'avez refait. Ouais, lui casse les couilles. Parce qu'en fait, la raie, elle se divise à chaque fois que tu la touches. Ouais. Et franchement, c'est un calvaire et c'est pas très fun, en vrai. Donc, ce niveau, on aurait pu s'en passer, je pense.
C'est un niveau de boue, non?
Ouais, c'est une sorte de boue devant l'hôtel.
Ouais.
Et en fait, la raie, elle est sur le sol.
C'est l'hôtel, là, je m'appelle.
Et après, c'est l'hôtel où il y a les boues, effectivement.
Ce qui est incroyable, d'ailleurs, cet hôtel, maintenant, j'y repense, il y avait tellement de trucs cachés. Tu te perdais vraiment là-dedans. Ce qui est le but de tous les trucs de boue. Mais dans un Mario 3D, je me suis jamais senti autant perdu. Tu sais, t'étais là, genre, c'est dans cette salle-là que je dois aller, je sais pas comment aller dedans.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment compliqué. Et quand t'arrives dans le casino en dessous, t'es là, waouh, il y a un casino dans l'hôtel. C'est vraiment drôle, en vrai. C'est super évolué, je trouve, ce niveau. Il est trop marrant.
Que dire de plus sur Mario Sunshine? Ah, le lore, tu l'as abordé très rapidement tout à l'heure, mais c'est aussi, genre, l'un des premiers Mario, ou le seul même, où ça tourne pas uniquement sur le fait que Peach se fait enlever, mais il y a cette histoire de Mario qui arrive en vacances. Au final, il y a Anti-Mario qui a dégueulassé la ville, donc ils nous prennent pour lui, on se fait emprisonner, on est obligé, on est genre condamné à des travaux d'intérêt général où tu dois nettoyer toute l'île. Enfin, je trouve que le Peach de départ, il sort quand même du lot.
Ah, j'avoue.
Ouais, et puis la relation entre Bowser et son fils aussi, c'est assez marrant. Et puis Anti-Mario, j'aime bien, moi, ce concept de Anti-Mario. Qui est une sorte de tutoriel, c'est-à-dire qui te montre comment faire les trucs, et en même temps c'est un anti-héros que t'aimes trop l'arroser, et qui après il chouine par terre et là comme ça là. C'est trop marrant, je trouve, comme personnage et comme idée, en fait, d'avoir un anti-toi, quoi. Donc ouais, le lore incroyable, hein. L'avion rose au début, enfin, tous les piantages, je te parlais, mais juste les danses des piantas, les activités des piantas, genre, qui font des jus de fruits en jetant des fruits sur, par-dessus leur toit, et il y a un mixeur qui fait du jus de fruits, enfin, je sais pas, j'aime trop même les grosses chenilles, enfin, les personnages, ils sont marrants, et le fait que ça soit, un truc d'été avec des îles et tout, je trouve que ça ajoute aussi, à cet univers un peu sympa, quoi, les noix de coco, les ananas, je trouve que c'est le marché, tu vois, où ils font leur marché, il y en a, ils vendent des piments, je sais pas, j'aime vraiment bien cet univers voilà, je manque pas d'ailleurs de le réutiliser même parfois dans mes vidéos, là, celle qu'on a sortie cette semaine, je sais pas quand le podcast sera diffusé, mais on a recréé la place Delfino pour un freestyle et quel kiff, tu vois, de replacer des Pianta, des ananas, des Yoshi, bon, bref.
Parlons-en de cette danse de Yoshi à la fin.
Yoshi, il s'est mis au hip-hop récemment, donc non, il fait quelques moves plutôt sympas. Ouais.
Non, très très cool. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de Mario Sunshine, je sais pas si t'as autre chose à rajouter.
On n'a jamais fait le tour de Mario Sunshine, c'est ça qui est bien. Mais disons que pour le podcast, c'est déjà pas mal, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai toujours plaisir à revenir à ce jeu régulièrement, et soit pour me balader un petit peu, soit carrément pour retryhard des trucs que j'ai déjà fait 40 fois, mais c'est toujours un plaisir, quoi.
C'est vraiment le mal aimé en plus, hein. Parce que je me rappelle qu'à mon premier taf, ils avaient fait une tier list des Mario, et Sunshine, il était tier D. Et moi, j'étais en mode, comment vous osez, c'est mon préféré. Et puis tout le monde me disait, ça c'est parce que t'as pas joué depuis longtemps, la savonnette Mario et tout. Puis quand il y a eu le remaster, quand même, j'ai joué sur Switch. Je me suis dit, c'est vrai qu'il bouge pas très bien quand même, le pauvre là. Mais ouais, en termes d'univers, peut-être que c'est pas le Mario qui bouge le mieux, mais en tout cas, genre, c'est le Mario qui t'amène le plus de satisfaction à finir. Moi, je pense. Honnêtement, je l'ai fait et refait. C'est le seul Mario que j'ai dû finir, genre, bien 4-5 fois. Pas à 100%, parce que je suis pas,
pas un malade.
mais ouais, franchement, c'est un beau choix.
Ah, les 100 pièces jaunes, quand même, quel plaisir. En plus, les pièces qu'il y a dans le Delfino aussi, ça, c'est un bon calvaire. Faut aller dans les souterrains et tout. Là, j'avoue qu'à la fin, pour finir à 100%, je suis allé un peu voir les Solus parce que j'en pouvais plus. Tu sais, si tu rates une pièce, tu finis pas. Genre, c'est un peu, bah, c'est tous les jeux sont comme ça, en fait, au final, les trucs à 100%, mais bon, bref. Là, c'était juste pour le délire de le faire, mais je pense que si la prochaine fois que je fais le jeu en entier, j'irai peut-être pas jusqu'aux pièces jaunes en entier, quoi.
Très bien, ben, enchaînons et parlons maintenant du deuxième jeu de ton top 3. On retrouve cette fois-ci The Legend of Zelda The Wind Waker, encore un jeu développé et édité par Nintendo. Il est sorti en mai 2003 sur GameCube en Europe et succède donc à Majora's Mask, sorti en 2000 sur Nintendo 64. L'une des particularités, c'est que dès qu'on lance ce Zelda-là, on remarque tout de suite sa patte graphique et l'utilisation du cel shading qui donne un aspect cartoon, dessin animé au visuel. Alors toi, quand tu joues à ce Zelda pour la première fois, est-ce que t'es déjà familier et tu connais bien la licence ou c'est un peu ton introduction à Zelda ?
Bon, déjà, classique sur classique, hein, t'as dit 2003. Ils sortent Mario Sunshine en 2002, Wind Waker en 2003.
Ouais.
Quand je te parlais d'époque dorée, bon voilà, là, c'est quand même un sacré délire. Alors la licence Zelda, alors je connais la licence Zelda à ce moment-là. J'ai jamais joué ni à Ocarina of Time ni à Majora's Mask. Enfin, j'ai joué à Majora's Mask chez un pote sur Nintendo 64, mais j'ai jamais fait le jeu moi. Ocarina of Time est fourni dans le jeu, donc je l'ai fait à ce moment-là. Dans la boîte, il y avait un deuxième CD. Par contre, je crois que j'avais joué à Zelda sur console portable, il me semble, en 2D.
Okay.
Mais alors, lequel, je sais plus. Mais je connaissais l'univers de Zelda, ouais. Mais en tout cas, je savais que c'était un gros jeu, etc. Mais c'est la première fois que je me fais une vraie aventure en 3D de Zelda.
Ok. Et là, je viens d'y penser pendant que tu parlais, mais c'est marrant, c'est l'un des seuls Zelda aussi où on est sur une île au final. Et juste avant, on avait Mario. Il y a peut-être un thème aussi, un petit délire, le fait que ce soit, je sais pas, ensoleillé.
Ouais,
la mer.
Ouais. Ça fait rêver en vrai. Ça fait
carrément,
rêver.
Ouais. Carrément.
Nintendo avait besoin de vacances.
Et bah ouais, à l'époque, ouais, tu vas pas forcément dans une île tous les jours. Enfin, moi, j'habitais pas sur une île, donc c'est vrai que c'est énorme. Il y a un côté exotique qui est vraiment cool, j'avoue.
Ouais, c'est sûr.
Qui est pas le délire réaliste, mais qui est un autre truc que moi j'aime beaucoup. C'est genre, tu vas dans un imaginaire où, bah là encore plus avec Zelda, où tu vas naviguer carrément d'île en île avec ton bateau. Enfin, je sais pas, j'avais jamais vécu ça avant, quoi, je crois.
Ok.
Est-ce que t'es resté longtemps bloqué au début?
Tu veux dire sur l'île avant de comprendre comment on fait pour avoir le bateau?
Oui.
Je crois pas, mais il me semble que c'est possible que j'avais déjà vu. Il y avait une émission sur Game One qui s'appelait Level One avec Marcus, où il faisait le premier niveau, et c'est possible que j'ai vu le premier niveau du jeu à la télé avant d'y jouer. Donc je pense pas avoir été bloqué. Ah, par contre, j'y suis resté beaucoup sur cette île juste pour le plaisir parce que je la trouve trop bien, l'île du début. Juste de se balader, prendre les cochons, les jeter dans l'eau. se faire des roulades dans les herbes. Il y a le morveux qui te suit là. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance aussi, la musique. Un peu le même délire que Sunshine pour le coup, mais j'aime bien aussi l'ambiance de cette île, ouais.
Et c'est très famille. Enfin, tout le monde se connaît un peu. Il y a ta grand-mère. Enfin, il y a tout de suite un truc. T'as envie de rester longtemps, même si tu sais que tu dois partir. T'as envie de rester là et parler un peu à tout le monde, voir les interactions, voir ce que tu peux faire.
Ouais, c'est vrai. Alors pour le coup, ce jeu-là, je l'ai pas refait depuis très longtemps. Pour une raison simple, c'est que je l'ai prêté à un pote et il me l'a rendu l'année dernière. Donc, au bout de 15 ans, je pense, de prêt, il m'a rendu mon jeu. Avant ça, j'avais plus le jeu et j'ai pas eu. C'est sur Wii U, donc il a été remaster.
Exactement.
Donc c'est la seule console Nintendo que j'ai pas eu, donc j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de le refaire. Donc là, depuis que je l'ai, bon, j'ai plus ma carte mémoire, du coup j'ai refait quelques fois le début avec l'île et tout, mais j'ai pas refait l'aventure en entier. Et je pense que, en fait, j'ai l'espoir qu'il va être remaster sur Switch ou sur la prochaine console. Mais si c'est pas le cas, je pense que juste je le referai sur GameCube en entier avec une nouvelle carte mémoire. Mmh. Mais j'ai un peu hâte, tu vois. C'est juste que Zelda, je suis moins en manque parce que il y a eu beaucoup de Zelda qui sont sortis et qui sont incroyables. Donc en fait chaque année, je passe la moitié de l'année à jouer à Zelda. Donc j'avais moins le besoin de jouer à Wind Waker récemment, mais en fait je pense que je vais me le refaire bientôt quand même.
Je me demande s'il est pas sorti sur DS, 3DS, 3DS.
Non.
Ah ouais, non, je pense pas.
J'ai checké, non, il est vraiment juste sur Wii U. Et
c'est une injustice. Il est pas sorti. Non, mais pourquoi on se fait Galaxy là et pourquoi on se fait pas Wind Waker en remaster? C'est fou.
En vrai, les Zelda, ils les sortent au compte-goutte, hein, les remasters. Quand même.
Ouais, on va pas parler de Skyward Sword. Skyward Sword, c'est pas ouf, hein, quand même, hein, ce jeu. Je l'ai fait sur Switch tellement je suis en dalle de Zelda. J'ai fait Skyward Sword en entier là. Franchement, il est pas génial le jeu, hein. Il est, j'ai aimé parce que je suis un gros fanboy de Zelda et tout, mais c'est quand même pas foufou quoi. Il fallait plutôt faire Wind Waker, je pense.
Mais ils ont fait. Il y avait un autre remaster avant, c'était celui avec l'île là, dans un rêve. Comment il s'appelle déjà celui-là ?
Link's Awakening.
Ouais, Link's Awakening. Par contre, lui, il est très très bon.
Ouais, je l'ai pas fait encore, mais c'est oui, il est sorti sur Switch aussi lui.
Ouais, pour le coup, lui, ça t'aurait permis de récupérer du stamina pour attendre un peu plus de Wind Waker.
C'est vrai, mais je pense que je vais le faire prochainement. C'est juste que du coup, ça m'a un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Zelda 2D, mais en vrai, je vais m'y remettre, hein, je pense.
Ah si, je pense qu'ils sont en train de préparer un Minish Cap remaster, j'espère. Parce que Minish Cap, en fait, il est sorti que sur GBA aussi. Pareil, il n'a pas été refait. Il était trop bien, ce jeu.
Il n'y a pas une suite sur DS ?
Genre Minish Cap 2 ?
Je sais pas. Je vois les visuels de l'époque avec des Link rouges, violets, etc. Là, ça c'était Minish Cap. Hein. Et je sais pas, dans ma tête il y a un truc sur DS, mais peut-être pas en fait.
Ouais, mais non.
Ça commence à dater.
T'as raison qu'il y en avait un autre, mais je sais pas c'était lequel, mais c'était un que tu pouvais jouer à 4 justement.
Ah ouais,
sur GameCube.
C'est pour ça.
Ça me dit un truc sur GameCube, ça.
Ok. Après, je sais pas, on peut parler de plein de choses sur The Wind Waker en particulier. Est-ce que vous aviez des aspects que vous vouliez aborder en particulier ou?
Le jeu est tellement vaste. Moi, une des questions que j'avais, c'est est-ce que tu l'as fini plusieurs fois? Parce que j'ai l'impression que contrairement au, par exemple, Mario, c'est un jeu que tu peux y rentrer, faire une ou deux étoiles et ressortir, etc. Alors que Zelda, je trouve que c'est tout de suite plus genre time consuming. Là, t'as besoin de prendre du temps, passer de longs moments à y jouer.
Ouais. Vu la taille de la map et tout, enfin, peut-être c'est ridicule maintenant la taille de la map, mais en tout cas à l'époque, ouais. Ça me semblait être infini. Alors, je me rappelle que quand j'ai fini le jeu, j'étais tellement hypé, j'ai tellement adoré que j'ai relancé le jeu et je l'ai refini.
Mais non.
Et du coup, la deuxième fois, tu sais, c'était tu restes en pyjama et pendant l'aventure et tout. Et en fait, c'est juste que j'avais encore faim, tu vois, j'avais encore la dalle, j'avais encore envie de faire le jeu. Mais c'est effectivement, c'est à moins un jeu où tu te fais une petite partie et puis ciao quoi. C'est ouais, je pense que la prochaine fois que je le fais, je vais le faire en entier. Mais ouais, il est super long et puis il y a beaucoup d'îles au final, non ? Même si elles sont pas toutes très remplies. Si tu veux le faire à 100%, je pense que ça prend du temps. Donc ouais. D'ailleurs, un truc dont je me rappelle, c'est que j'avais la Game Boy Advance. Et si tu l'as connectée à ta GameCube avec un câble, je sais pas comment ça, Link, enfin je sais plus comment ça s'appelait, tu pouvais avoir Tingle, là, le lutin vert. Mm-hmm. Et ça faisait une sorte de GPS pour te repérer dans la mer.
Okay.
Et en fait, j'y ai repensé pas mal de fois cette histoire parce que Du coup, j'utilisais ça et ça te permettait, tu vois, de voir les îles, voir s'il y avait des trésors sur les îles et tout. Et parce que quand tu naviguais, c'était assez... Enfin, à l'époque, on n'avait pas le champ de vision de maintenant. Et du coup, tu te baladais vachement sur l'eau où il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien.
Exactement,
puis il y avait une île.
Tu te perdais, là.
Ouais, c'est ça. Et si tu avais ça, ça t'aidait quand même vachement. Et alors, c'était en 2003, du coup, on a dit tout à l'heure. Ouais. Mais ensuite, quand il y a eu Google Maps et que, tu vois, dans la vraie vie, j'ai mis un point dans la map et j'y suis allé à pied en suivant les flèches sur Google Maps. En fait, je me suis dit, en fait, ça, je l'avais déjà fait sur la Game Boy Advance à l'époque de Wind Waker. Quoi. Mais peut-être que Google Maps existait déjà avant, mais c'est juste que le fait de me balader comme ça en utilisant Google Maps dans une ville que je connais pas, ça m'est arrivé après et je me suis dit, putain, c'est devenu la réalité, en fait, ce mode
de
déplacement, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Quand même, ils étaient visionnaires, hein. Franchement, c'est ouf d'avoir pensé à ça.
C'est marrant aussi d'avoir pensé au fait que on te fait acheter la Game Boy Advance pour avoir ça dans le jeu.
Non, mais là où c'était bien, quand même, là où c'était pas trop bâtard, c'était que t'avais pas besoin d'acheter un jeu Zelda, tu vois. Juste, tu branchais la Game Boy Advance. Moi, j'avais la Game Boy pour Pokémon, évidemment. Tu l'as branché et tu pouvais jouer direct, quoi. Donc ça, c'était quand même cool. Après, ça servait pas à grand chose non plus, hein, mais c'était cool, quoi, je trouve, comme idée. Et puis le concept de fou aussi, je trouve qu'il n'y a pas eu dans Zelda d'être sur l'eau et d'avoir Hyrule qui est sous l'eau. Je trouve ça vraiment trop bien comme idée, tu vois. Enfin, tu le découvres plus tard qu'en fait Hyrule a été noyé, que le roi d'Hyrule en fait c'est le bateau et que ta pote en fait c'est Zelda, etc. Enfin, un peu le waouh, ah ok, en fait on n'est pas juste en mode on se balade d'île en île, en fait on est au-dessus d'Hyrule et en plus on peut aller dans Hyrule sous l'eau. Enfin, je trouvais l'idée, le moment où tu t'en rends compte, t'es là waouh, gros plot twist, on est dans Fight Club ou quoi. Enfin, c'est genre c'est un délire, quoi. Et d'ailleurs, j'y pense, il y a un projet que je suis là sur... c'est un mec qui poste régulièrement des vidéos sur YouTube. Il y a un mec qui est en train de mapper toute la carte de Wind Waker sans l'eau. Donc, c'est-à-dire il s'appelle Wind Waker Unflooded, je crois.
Okay.
Et en gros, il a enlevé toute l'eau et il remodélise Hyrule de dessous de Wind Waker, donc avec le château, mais tout, quoi. Genre les montagnes. Et il refait ça sur son logiciel.
C'est déjà dispo, enfin c'est un truc en open.
Il avance petit à petit et il poste des updates sur sa chaîne YouTube.
Ok.
Du coup, je regarde régulièrement où il en est. Je sais pas quel est le but final de ça. Je sais pas s'il compte le rendre jouable ou juste tu peux te balader en 3D dedans. Je sais pas trop comment ce qu'il compte faire, mais je trouve ça génial comme idée.
Non, c'est vachement intéressant. Et encore une fois, c'est vrai que l'eau au final, moi j'ai pas rejoué, mais j'ai juste regardé des vidéos de gameplay pour me rafraîchir la mémoire et tout. Et il y a vraiment cet aspect de aller d'une île à l'autre, c'est vraiment hyper long. Enfin, je me souviens quand j'étais petit, j'étais vraiment presque traumatisé en mode putain, non, j'ai oublié un truc, faut que je retourne sur l'autre île. Et ça prend du temps, flemme de passer du temps à naviguer, etc. Ça m'a vraiment marqué ce truc-là.
Ouais, et puis il y a même un petit stress un peu, je trouvais, de partir, tu vois, à l'aventure dans l'eau. Enfin, tu sais, c'est pas comme t'es sur Terre et à tout moment tu rentres dans ta base, etc. Là, c'est vraiment, tu pars tout droit, tu sais pas ce que tu vas trouver, aussi bien il y a un ennemi surpuissant, aussi bien tu te fais canarder depuis l'eau par des trucs, ou alors il y a une pieuvre géante dans la mer. Et tu vois, tu balises un peu, je me rappelle, quand tu te balades dans l'eau et que tu sais pas où tu vas et tu connais pas. Ensuite, quand tu connais, t'es plus en mode, ok, là, je sais que c'est là. Mais au début, c'est un peu stressant, je trouvais même.
Est-ce que quand on parle de Wind Waker, il y a des moments forts ou des îles, des passages qui t'ont vraiment marqué, qui te viennent en tête directement ou pas?
Le moment fort pour moi, c'est le combat de fin contre Ganon. Il est, je me rappelle vraiment de, tu vois, du setup. En fait, il y a une sorte de simplicité, je trouve, dans ce combat. C'est 1v1, le décor assez minimaliste en fait au final, et ça se bute, quoi. Enfin, je trouvais ça la pression que t'as, parce que en fait, il y a tout le build-up de t'as parcouru tout l'océan, t'as réussi à aller sous l'eau, à découvrir Hyrule sous l'eau, machin, et là t'arrives au dernier moment, et en plus, je sais pas, quand j'étais petit, je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais foirer, je sais pas comment dire, mais que si je ratais, j'allais devoir tout recommencer, ou enfin, peut-être pas jusque-là, mais tu vois, genre, j'avais vraiment la pression en mode putain, je suis enfin face à Ganon qui arrive et tout, et le combat, et ouais, je sais pas, j'en garde un souvenir de malade, et quand je l'ai battu tout, j'étais tellement heureux, voilà. D'ailleurs, le système de combat, tant que j'y pense, j'ai adoré, moi, le système de combat, beaucoup plus que ce qu'ils ont mis en place dans Breath of the Wild et tout, où t'as plein d'objets qui peuvent être très cool aussi, mais où ton objet se casse vite, etc. Là, t'avais une épée et des techniques de salto en arrière, saut sur les côtés, se protéger, taper.
Même la riposte, là aussi, c'était très cool. C'était la première fois qu'il y avait ça, je crois.
La riposte, méga cool, ouais, c'est qu'ils l'ont mis en place. Et tous les bruitages, qui fait une sorte, en fait, quand tu fais des enchaînements, ça fait une sorte de musique. Ça, je trouve ça, c'est trop agréable, quoi. Rien que tabasser le cochon de base, en fait, ça fait trop plaisir parce qu'il y a une sorte de chorégraphie et de musique qui est associée à ça. Et du coup, ça fait des bons souvenirs. Et voilà. Et après, je me souviens pas mal du niveau dans la montagne où t'as le grappin et tu dois utiliser le grappin pour faire le tour de la montagne par l'extérieur. Ensuite, tu rentres dedans. Ça m'a pas mal marqué. Et après, ça, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, y a sûrement d'autres moments. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à me remémorer, parce que chaque fois que vous dites des trucs, ça me met des images d'un coup.
Mon expérience, c'est le jeu était chez mes voisins, mais vraiment mes voisins de palier. Donc, j'allais tout le temps chez eux, mais ils étaient plus jeunes et ils faisaient que effacer la sauvegarde. Donc, la première île, je l'ai vraiment fait peut-être 20 à 30 fois.
Ça rend fou.
Et en plus, souvent, eux, ils n'arrivaient jamais à sortir de la première île. Donc, en fait, si je les faisais pas sortir, ils recommençaient.
Ouais.
Ils effaçaient, ils recommençaient. Et c'était une boucle comme ça. Donc, j'ai du mal à me souvenir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je me rappelle beaucoup mieux de ce que j'ai fait dans les autres jeux avec Link Cartoon. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, la musique de Wind Waker, je la connais entièrement. Donc, il doit y avoir quelque chose dans ma mémoire qui a shifté. Parce que je me rappelle de toutes les musiques de Wind Waker, mais j'ai pas l'impression d'avoir fini le jeu.
La soundtrack est incroyable aussi.
C'est un truc incroyable. T'as le bâton du vent, je sais plus comment il s'appelle, ou qui te permet de faire une petite mélodie et qui du coup oriente le vent du côté que tu veux, etc. Ça c'est trop bien. Et puis les musiques sont super. C'est Koji Kondo encore, enfin j'imagine, vu que c'est tout, il a fait tous les Nintendo, mais quel boss.
Mais moi je repense aussi à un niveau qui m'a beaucoup marqué, et limite traumatisé étant petit. C'est celui où t'arrives sur la forteresse là. Et il y a les énormes faisceaux de lumière, et tu dois les éviter pour pas te faire remarquer, etc. C'est un peu genre
frustration. Ah oui, ça, je vois.
Je me souviens qu'à chaque fois, au moment où je me fais attraper, je suis en mode vraiment hyper frustrant.
incroyable. Ah oui, je me rappelle du coup. Non, c'est ouf ça. J'aimais trop. Il y avait un autre jeu d'infiltration qui est sorti à peu près dans les mêmes années, qui s'appelait Une fin de loup. Je sais pas si tu vois. C'est genre avec Bibi et Coyote. J'avais ce jeu sur PC. Okay. Et tu dois t'infiltrer un peu sans te faire repérer par je sais pas qui et voler des moutons pour les manger. Et c'était un peu le même dans ma tête, c'est un peu le même délire où t'es un peu sur la pointe des pieds et tu dois tu sais, t'es trop stressé que dès qu'il y a des lampes qui arrivent vers toi et tout mais en même temps t'as envie de courir tout droit parce que c'est un peu long. j'aime bien ce truc là.
Ouais.
J'aime bien mais ce truc là était avec le bateau, non? Les lumières, c'était à pied ou il y avait un bateau?
À pied.
Initialement, t'es sur le bateau, on t'envoie, je pense, au niveau de la forteresse, et tu vas continuer à pied.
Alors, dans un de ceux après, t'as une mission d'infiltration comme ça, mais en bateau. Et du coup, tu sais, sur DS, tu contrôlais ton bateau en donnant avec des coups de stylet, là. Tu mettais, genre, un petit coup de stylet comme ça, et tu faisais, genre, aller à droite, à gauche, et tout. Et je me rappelle que ça, c'était...
Attends, on parle de quel jeu, là, sur DS?
Il y a eu The Wind Waker, qui était le premier Link Cartoon, et après, il y en a eu un autre qui était...
Phantom Hourglass?
En vrai, les deux autres. Ouais, il y a Phantom Hourglass, ça c'est... Ouais, et après, il y a celui avec... où au lieu d'avoir un bateau, t'as une locomotive.
D'accord, putain. Ah oui, effectivement, bah écoute, j'y ai jamais joué.
Attends, comment il s'appelle celui avec... où c'est Phantom Hourglass?
Moi, c'est sur console portable, il y en a trop que j'ai raté, genre. C'était... Ouais. À un moment, ils sortaient, ils enchaînaient, je comprenais plus trop.
Moi, j'avais la petite R3, je sais pas trop quoi, ça permettait d'avoir n'importe quel jeu sur DS. Donc j'avais joué à tous les...
Ouais, faut dire c'était aussi un budget à l'époque. Je sais pas non plus tous les jeux, quoi. Fallait bien réfléchir.
Trop bien. Je pense qu'on a fait le tour aussi de Zelda. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont tu voudrais parler?
Ouais, non, si. Tu l'as mentionné au début, mais je voulais dire quand même le cel shading, c'est un move de génie. Le jeu, il a pas vieilli. Franchement, il est toujours trop beau. Enfin, si tu joues avec en HD avec un branchement correct, le jeu, il est magnifique, honnêtement. Et moi, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup la patte graphique cel shading, Jet Set Radio Future qui était sorti sur Dreamcast avant. Ce Zelda, je le trouve vraiment, vraiment très beau, quoi. Enfin, j'adore vraiment le. J'avoue que moi, je suis assez sensible, en tout cas pour les deux jeux dont on vient de parler, la patte graphique et l'univers qu'ils ont développé me parle énormément. Et peut-être un peu moins dans les Zelda suivants, même si bon, voilà, Breath of the Wild et tout, c'est super beau aussi. Mais j'avoue que le côté très cartoon et tout, j'adorais ça.
Et c'est marrant que t'en reparles parce que Ils ont vraiment reçu un gros backlash à l'époque et c'est pour ça que
ouais, je me rappelle, je me rappelle.
Après.
Ils en même temps, ils avaient teasé un Zelda réaliste à ça, YouTube ouais. et ils arrivent avec ça, donc forcément, exact, les gens étaient déçus. Mais... Ouais.
Mais je pense que le Zelda réaliste avait jamais été annoncé. Genre, j'ai revu une vidéo qui expliquait un peu le contexte. C'était juste pour montrer la puissance de la GameCube, mais ils ont jamais dit que ce serait le jeu qui sortirait, tu vois.
Et donc, tout le monde a assumé. Bâtard, tu connais les gens quand même.
Ah, don't assume. Mais ouais, je suis totalement d'accord.
Et le dernier, il s'appelle Spirit Tracks, apparemment. J'ai retrouvé le truc.
D'accord, ok. Bah écoute, ceux-là, par contre, ils pourraient être remaster, peut-être, non?
Parce bah en fait, peut-être
je pense que plein de gens les ont ratés.
En fait, là, je regarde, mais Link Cartoon, il était présent dans The Wind Waker, puis après dans Four Swords Adventure, donc ça, c'est l'autre dont tu parlais. De Minish Cap, c'est Link Cartoon, apparemment, de Minish Cap. Et Phantom Hourglass, Spirit Tracks, mais tu te dis, ils pourraient faire les trois, tu vois, genre The Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks ensemble, parce que
comme ils l'ont fait pour Mario Sunshine
ouais, le moteur,
avec
c'est
Galaxy. Galaxy.
Ouais, le moteur, ça doit être le même en plus. Donc,
En vrai, ben, Didier, j'achète direct. Prenez ma carte bleue, Nintendo, j'attends. J'attends.
Bah, continuons et concluons maintenant sur ton troisième jeu.
Ouais.
Pour le troisième jeu, on change totalement de style puisqu'on retrouve maintenant NHL Hits 2002. C'est un jeu de hockey sur glace de type arcade, développé par Black Box Games et publié par Midway Games. C'est sorti en 2002 en Europe sur GameCube. Donc on est sur une trilogie GameCube, c'est magnifique.
J'avoue, ces années-là m'ont beaucoup marqué, hein. C'est fou.
Mm.
Déjà, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et en plus, je me suis dit, ce serait marrant de vous en parler parce que j'imagine que on vous dit pas souvent celui-là.
Clairement, il sort du lot, là.
Vous y avez joué ou pas?
Pas du tout. Et toi, Yann?
Alors, en fait, j'ai pas joué à celui sur GameCube. J'ai joué à NHL 2002 sur EA Games. Enfin, EA Sports, plutôt.
Ok.
Je sais pas à quel point le jeu est différent, mais ce jeu-là, je me suis tellement buté dessus. Mon grand frère, il joue encore. Le jeu de
on y arrive.
NHL
on y arrive.
2002.
On va comprendre.
Est-ce que c'est des vrais joueurs ou pas dedans?
C'est des vrais joueurs.
Et donc, du coup, est-ce que tu connais les frères Cédine? Ça te dit quelque chose ou pas?
Les frères Cédine, non, ouais, mais je me rappelle de beaucoup de joueurs. Après, je prenais un peu toujours les mêmes équipes, donc c'était peut-être pas dans l'équipe que je prenais.
Ouais. Bah, les frères Cédine, c'était les deux qui avaient le plus gros potentiel. Donc, si tu étais dans ton équipe, ils finissaient par augmenter et être genre les rockstars du jeu. Et après, évidemment, le Mew, Marco le Mew. C'est le Mew,
là. Mew. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais c'était NHL 2002 ou NHL Hits 2002?
Parce que... Non, c'était NHL 2002, pas Hits 2002. Okay. C'était sur PC. Je pense à un autre jeu.
Mmh. Ok.
Hit, c'est très important dans le nom.
Le hit, c'est important, ouais. Le hit, c'est important. En fait, je pense que les persos sont pas exactement les mêmes. Et le gameplay est assez différent, je pense, quand même. Enfin, il y a quelques variations, quand même. Le concept est très arcade, en fait, par rapport à, je pense, NHL 2002, qui se voulait peut-être un poil plus simulation. Un poil.
Plus réaliste,
ouais. Là, le réalisme n'était pas le point fort du jeu. Par où commencer? Est-ce que déjà vous aviez un truc en tête en particulier ou j'essaie juste de vous décrire pourquoi ce jeu?
Moi j'avais une question ouais, avant que tu partes là-dessus, c'est est-ce que t'as une passion du hockey qui t'invite à acheter le jeu ou c'est vraiment en mode ah je sais pas, t'étais à la boutique, t'as vu ce jeu-là, ça avait l'air sympa et tu l'as pris un peu au hasard?
Je m'en fous totalement du hockey, j'ai jamais vu un match de hockey de ma vie, mais c'est ce qui rend le jeu encore plus absurde parce que là on parle d'un jeu auquel je me suis buté toute ma vie et auquel je me bute actuellement. Donc okay. c'est ça qui est très drôle dans l'histoire en fait, je trouve, c'est que j'avoue que le hockey je le connais que par les joueurs de 2002 qui sont dans le jeu NHL Hits 2002. Donc je peux te citer les équipes de Toronto, de Détroit, Colorado, Philadelphie. Mon joueur préféré c'est Shanahan à Détroit. Enfin, je peux te citer des trucs, mais en vrai ça n'a aucun sens puisque c'est comme si je te citais des joueurs de foot de 2002. Qui joue à Boca Junior, quoi. Enfin,
okay.
On en a rien à foutre, quoi, mais... Bref. Non, alors, En fait, à l'époque, j'étais quand même... Je commençais, tu vois, les débuts des années 2000, je commençais à être très fan de jeux vidéo et du coup, à beaucoup suivre les médias jeux vidéo, donc Gamekult, jeuxvideo.com, Game One, la chaîne de télé, etc. Donc je suis quasiment sûr de l'avoir acheté en connaissance de cause, en sachant que c'était un gros gros banger le jeu, tu vois. Je suis quasiment sûr que parce que je vois pas pourquoi j'aurais acheté un jeu de hockey sur glace. Enfin, ça me ressemble pas trop de base. Donc voilà. Et je crois que de base je savais, j'aimais bien l'univers quand même qu'ils avaient mis en place avec la musique d'intro de Limp Bizkit. Donc c'était une musique assez, tu vois, violente, tu vois, gros metal rap. Ça me plaisait énormément, tu vois, déjà la musique. Et dans l'intro, la vidéo, je pense que j'avais dû la voir avant d'acheter le jeu, la vidéo d'intro, elle te montre la violence du jeu où tout le monde se fait exploser contre les barrières, se prend des gros chocs, finit par terre et tout. Et j'avoue que la violence m'a attiré.
L'appel de la violence.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et bah du coup, après, la raison pour laquelle c'est un jeu classique pour moi et pour lequel j'y joue encore maintenant, et c'est vrai, hein, j'y joue... dès que j'ai un pote qui passe, on joue à ça, quoi. En fait, c'est le gameplay, je trouve vraiment, vraiment incroyable pour un jeu multijoueur, pour un jeu de sport en particulier. C'est 10 fois plus marrant que jouer à FIFA. Il y a plein de choses qui expliquent ça, mais disons que déjà, c'est un jeu qui a l'air assez facile, mais qui est quand même assez skillé. Donc, tu peux vraiment devenir meilleur à ce jeu-là. Moi, je suis vraiment très fort à ce jeu. Honnêtement, je dis, sans prétention, mais parce que c'est un jeu dont tout le monde se fout, mais en vrai, si tu sais pas jouer à ce jeu et qu'on joue en 1 contre 1, je te mets 28-0, c'est certifié, tu vois. Et après, j'ai des potes, mon petit frère est assez chaud à ce jeu, j'ai quelques potes qui savent bien jouer parce que, à force d'y jouer avec moi. Mais du coup, il y a vraiment un truc de skill où tu peux apprendre, déjà, il y a le côté pierre, feuille, ciseaux, qui a été beaucoup utilisé dans plein de jeux, mais, du coup, mettre une grosse charge, tu peux la dodge en te baissant. Tu peux attraper le palais aussi avec B. Donc en fait, il y a tout un jeu de, en fonction de ce que fait l'autre, tu peux le contre-attaquer à chaque fois. C'est-à-dire que si le mec te fait une charge, tu fais une toupie sur toi-même, ça évite la charge. Si le mec est trop loin, tu peux le récupérer sa balle avec en te jetant par terre pour attraper le. Enfin, je dis balle, mais c'est un palais évidemment. Tu peux attraper le palais, etc. Donc il y a tout ce côté-là qui est vraiment vraiment stylé, je trouve. Et puis t'as une sensation quand tu maîtrises un peu le jeu de contrôle absolu. Les passes sont super fluides, passes, tirs. Il y a le concept de high timer. C'est si tu te places bien sur le terrain, il y a 2 ronds devant les cages. Et en gros, si t'arrives à faire une passe à un mec qui est dans le rond, le palais devient en feu et ça fait un tir beaucoup plus puissant. Et du coup, il y a toute une stratégie qui consiste à aller passer derrière la cage de l'adversaire et faire une passe en retrait pour un mec qui se serait placé là. Et du coup, ça, si tu commences à maîtriser ça, t'es au max, quoi. Donc voilà, il y a tout ça. Et après, il y a aussi le côté un peu plus marrant dans le gameplay de juste s'éclater la gueule, envoyer les mecs à travers la vitre et il perd son casque. Quand ça devient trop la merde, ça part en baston et du coup ça devient une sorte de Tekken.
C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on en parle. C'est incroyable.
Bah, vas-y, parlons-en.
Parce que pour le coup, genre, je connaissais pas du tout le jeu et genre, j'ai jamais joué à un jeu de hockey de ma vie avant cette semaine pour préparer l'interview. Genre, j'ai été ici à la bibliothèque, tu peux louer des jeux, et j'ai pris le premier qui arrivait, c'était genre NHL 2017. Donc là, c'est beaucoup plus l'aspect FIFA, plus récent et qui respecte les règles. Parce que si j'ai bien compris, dans le tien, là, NHL Hits, c'est vraiment, ils ont un peu tordu les règles du jeu. Et donc, tout l'aspect fight, il est beaucoup plus intense. Et il y a plein de petites modifications comme ça.
Bah, en fait, ouais, en gros, s'il y a trop de contact entre deux joueurs, c'est-à-dire que quand je dis contact, c'est vraiment tu balances le mec par terre, quoi. Enfin, ou tu l'envoies à travers la vitre, ou etc. S'il y a trop de contact, ça crée un combat entre les deux joueurs. Donc là, c'est un Tekken avec des coups A, des coups B. Tu peux grab, tu peux te protéger. Et du coup, les grabs sont un petit peu spicy, tu vois, en fonction de ce que tu fais. Tu peux vraiment faire des grabs qui sont humiliants pour l'adversaire, c'est-à-dire genre il lui reste très peu de points de vie et genre tu le chopes par le col et tu le jettes par terre comme une grosse merde. Enfin, c'est super marrant. Et en fait, ça a quand même un intérêt parce que si tu bats l'adversaire, il est out et il peut plus jouer. Enfin, le personnage. Et du coup, tu vois, quand t'as certains joueurs qui sont beaucoup plus, qui ont des meilleurs stats que d'autres, et du coup, tu vires l'autre.
Ah, c'est une strat en fait. Ok, j'avais pas capté cet aspect-là.
Bah, c'est une strat. En fait, t'as pas trop le choix parce que une fois que t'es dans le combat, c'est réussir ou mourir. Hein.
Ouais.
sinon, tu perds ton joueur et t'as trop le seum, quoi.
Je crois que c'est une règle même en NHL. Hein. Si les deux mettent leur casque, leur gant à terre ou quelque chose comme ça, là ils se battent.
Ils ont le droit de se battre en NHL, mais je pense pas que celui qui perd la baston doit sortir par contre.
Celui qui perd la baston a une pénalité, donc il sort sur carton.
Ah ouais, ouais. Ok, bah je savais pas. Écoute, bah tu vois, j'y connais rien, ok.
Je crois, en tout cas à l'époque, et puis sur NHL 2002 aussi, par contre moi c'est du button mashing de port, c'était juste, tu mettais le plus de droite possible. Il y avait des uppercuts et les droites.
C'est un peu ça.
C'est ça.
Mais le truc de combat est assez évolué au final, hein, parce que oui, tu peux bastonner, mais il y a quand même, je te dis, le grab, se protéger. Tu peux aussi pencher ton corps en avant ou en arrière Et si en avant, les coups ont plus d'impact, et si en arrière, tu prends moins d'impact sur les coups. Donc en fait, il y a quand même, un petit jeu. Ah, je te dis pas que c'est Tekken, mais franchement, c'est pas mal. Hein.
Et ce qui m'a surpris aussi, c'est l'aspect gameplay de ça, parce que t'es vraiment au début dans la vue de dessus, et tu joues ton match de hockey normal, et là, la caméra change, et c'est vraiment en mode fightez-vous, quoi. C'est...
Ouais, c'est ça.
C'était marrant.
Et après, le truc de la honte du mec qui va se remettre sur le banc de touche et tout, c'est trop, trop drôle, quoi. Et en fait, ouais, c'est un truc que j'ai pas mentionné, mais les mimiques, le motion capture du jeu, c'est incroyable, quoi. Si tu bats l'autre, t'es là, tu montes tes muscles et tout, t'es trop content. Même dès le début du match, il peut y avoir des embrouilles entre les équipes, un mec qui fait un croche-patte à un autre. Enfin, ils en ont vraiment fait des tonnes sur... Ça a trop, trop de personnalité, tu vois. Mm-hmm. Beaucoup plus même qu'un, tu vois, Mario Striker, où ils avaient essayé de faire un peu ça. C'est un jeu qui est sorti à peu près en même temps, non?
Ouais, j'allais arriver à cette comparaison-là, parce que le plus t'en parles, plus je me suis dit, putain, on dirait que c'est Next Level Game qui a fait ce jeu-là, parce qu'il y a, ouais, tout cet aspect trash-talking, etc., ça avait l'air...
Bah, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Alors, il s'appelait comment à l'époque? Mario Striker, Mario Foot, je sais plus.
Le Mario Striker, GameCube, c'est le premier.
Ouais, c'est ça. J'ai acheté le dernier d'ailleurs, il est éclaté au sol. Mais sur GameCube, j'y ai beaucoup joué, j'aimais beaucoup le jeu. Mais honnêtement, c'est beaucoup moins marrant comme gameplay que NHL Elite. C'est moins fluide, c'est moins nerveux, c'est moins cool en vrai. Ça a moins de personnalité.
Tu dis ça et le tout dernier Mario Striker, il est clairement encore plus lent que celui sur GameCube, donc.
Ouais, puis ils ont enlevé un peu tout ce qui était personnalité des personnages qui étaient méchants, qui accrochent un petit peu, tu vois. Et là, NHL Elite, pour le coup, alors que c'est une licence avec des vraies personnes dedans, ils sont allés super loin dans le délire, quoi. Et ça a fait kiffer tout le monde, ça qui est.
Il y en a eu après ou pas? Il y en a eu d'autres après?
Je me demande s'il n'y a pas eu un 2003, mais je crois qu'il n'y en a plus après, à ma connaissance. En tout cas, sinon, je pense que j'aurais fini par en racheter un. Voilà, et peut-être un truc que j'ai pas trop mentionné sur le côté arcade, c'est qu'ils étaient allés aussi super loin. Donc il y avait un mode carrière qui était très cool dans mon souvenir, mais en fait dans le mode carrière tu pouvais construire ton équipe et au fur et à mesure tu pouvais acheter des attributs dont par exemple une tête de requin, et du coup ton personnage d'un coup il avait plus une tête d'humain mais une tête de requin, et du coup moi je me souviens très bien, mon équipe c'était moi j'avais tête de requin, j'avais mis mes potes dans le jeu, donc j'avais au gardien une tête de vache, une tête de rat, une tête d'alien, tu vois, et ça faisait ça c'était mon équipe. Donc le côté arcade à balle, quand tu marques plusieurs points de suite tu t'enflammes, donc t'es en feu.
Oui,
c'est genre il y a la cinématique où genre tu prends les flammes sur toi, et ensuite pendant tout le reste du match jusqu'à ce que tu te fasses refroidir par l'ennemi, par l'adversaire, bah tu restes en feu, et du coup tous tes tirs ils sont enflammés, ça c'est incroyable. Si toute ton équipe elle devient folle, elle marque trop de points et tout, tout le monde devient en électricité, donc t'as la foudre qui tombe du ciel, et là les trois joueurs ont de l'électricité bleue autour d'eux et tous leurs tirs ils font de l'électricité bleue. En fait je trouve qu'ils sont allés à fond dans le délire, et en fait ils se posent aucune question, ils s'en foutent du réalisme, et c'est encore mieux que je trouve. Et voilà, j'ai quasiment tout le temps joué sur la patinoire normale, mais t'as aussi un mode dans un aquarium, un mode dans un cimetière. T'as des trucs comme ça, t'as des mecs dans le public qui soulèvent des pancartes pour donner des codes, et si tu fais des codes, bah ça peut transformer le palais en une grosse balle de tennis, ou alors les sets deviennent énormes. Il y a plein de trucs comme ça et qui sont trop marrants en fait, surtout quand t'as 12 ans, c'est genre ça t'éclate de fou, tu vois, de jouer avec un alien qui tire dans une balle de tennis, ou enfin tu vois, genre ce genre de trucs, c'est trop trop marrant, quoi.
C'est vraiment fou qu'ils aient réussi à faire tout ça, en plus en ayant les joueurs officiels, quoi. Quand ils
pensent... c'est ça le plus important dans l'histoire. Ouais,
mais c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps. Tu sais, il y en a un qui a dit pourquoi mon personnage se fait toujours baiser dans ces jeux-là.
C'est clair. En plus, à l'époque, ça doit être toujours pareil, mais tu sais, quand il y avait des jeux de voitures avec des vraies marques de voitures, tu n'avais pas le droit d'abîmer les voitures ou des trucs comme ça. Là, clairement, tu as des vraies personnes et tu peux leur éclater la gueule, les bastonner. Enfin, c'est vraiment drôle, quoi.
Mais en parlant autant de baston, là, ça me fait penser un peu à... Ça n'a rien à voir, mais Def Jam Fight for New York.
Ouais.
Pareil, ils sont allés très très loin sur le délire en prenant quand même des vrais rappeurs et rappeuses, et ils ont poussé le concept à fond, quoi.
La différence, là, c'est qu'ils ont négocié avec chaque rappeur pour l'inclure dans le jeu, et c'est pas... Il y en a pas... Alors que là, on parle de centaines de joueurs qui n'étaient pas au courant. Je pense qu'il y en a plein, et tu sais, ils jouaient à Détroit, et ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient en train de se faire bastonner virtuellement. par un mec de 12 ans, tu vois.
Bon point.
Mais voilà. Et je sais pas, on a jamais fait mieux en jeu multijoueur, hein, tout simplement. voilà. L'autre jeu auquel on joue énormément avec mes potes, mais pour le coup, lui, il est pas très bien, c'est 007 Nightfire. Mais là, c'est plus par nostalgie. On joue toujours sur la même map du téléphérique. Sentinelle, Sniper. Ouais, j'ai encore joué la semaine dernière. Donc, mes potes sont très, très, très fans de ce jeu. Moi, j'avoue que je pousse toujours un peu plus pour jouer plus à NHL parce que je trouve ça plus marrant. Mais c'est vrai qu'on joue toujours à cet autre jeu qui est sorti sur GameCube, 007 Nightfire.
En plus, le téléphérique, c'est la meilleure map.
Ouais, clairement.
Tu mets des petits gardes de montagne un peu nazes qui courent partout.
Ouais, ou tu prends le sentinelle, tu vois, le truc avec le missile téléguidé que tu peux guider toi-même. Et là, tu fais 20 kills d'un coup parce que c'est tellement facile.
Ça ramène des souvenirs.
Ouais, non, c'est un gros, gros classique aussi de la même époque. Et d'ailleurs, j'ai pensé parce que j'ai joué récemment avec mon petit frère et on s'est dit, vas-y, on joue à quoi? Je lui dis, vas-y, on joue à ta Xbox, la dernière, là. Et en fait, c'est super pénible si tu veux jouer à un jeu qui n'est pas installé, il faut faire la mise à jour. Il y a plein de jeux, tu peux pas jouer à deux manettes. Voilà, je fais un peu, c'est mon passage vieux con, mais c'est vrai qu'il y avait un plaisir, je trouvais, à l'époque, qui s'est peut-être un peu perdu de juste, tu lances le jeu, t'as même pas de sauvegarde, tu t'en fous, tu branches deux manettes, et direct, tu t'amuses un peu, limite, comme tu ferais un baby-foot, quoi. Mmh. Et je sais pas s'il doit y avoir plein de jeux encore, surtout moi j'ai des jeux comme ça, des jeux indés sur Switch où tu joues limite avec une demi-manette et c'est super marrant et tout. Mmh. Mais je trouve que ce plaisir du multi écran splitté ou écran juste partagé pour dans le cas d'un jeu de sport, il s'est pas un peu perdu aussi, je sais pas.
Je pense sur PlayStation et Xbox un peu. La stratégie en fait c'est plus d'avoir une console à la maison, c'est d'avoir une console par personne dans la maison.
Ouais, et puis chacun joue en ligne avec ses potes.
Ouais. Quand même.
C'est cool aussi hein, le jeu en ligne, moi j'ai toujours kiffé ça. Mais...
C'est vrai que j'ai pensé aussi, je me rappelle tous les midis où genre on allait chez moi parce qu'il y avait la Wii et Mario Kart et on était 6 et on s'en foutait, on donnait les deux plus mauvais, donnait la manette et puis...
Ça tourne.
Ouais, c'est ça, là tu dirais pour faire ça en fait, bah on irait chez 4 personnes différentes et il y en aurait peut-être un chez un, mais sinon, et puis toujours en ligne.
Non, il y a toujours FIFA quand même, enfin FC 24. FIFA, on peut toujours jouer à deux, non? Enfin,
ouais, bien sûr.
Mais en vrai, c'est un des seuls jeux où les jeux de combat, peut-être. Mais ça se fait quand même plus rare. J'ai l'impression qu'à l'époque, tous les jeux de base, ils avaient un mode comme ça, quoi.
Et Mario, Nintendo Plus, ça a souvent été connu pour des jeux familiaux ou de fêtes, quoi. Genre Mario Party, etc. C'est toujours, on a la console Nintendo et tout le monde s'amuse et tout le monde ramène sa manette et ça suffit pour jouer, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, avec mes potes d'enfance, qu'on se réunit souvent, on joue à ça. Moi, je trouve que c'est un vrai usage que j'ai toujours, tu vois, de jouer entre potes avec deux manettes. Et tu vois, ça fait une soirée, quoi. Tu tabasses. Après, il y a quand même Smash Bros que j'avais déjà sur GameCube à l'époque, mais le dernier sur Switch, j'y joue pas mal aussi. Mario Kart, évidemment, en écran splitté, tout ça. Enfin, merci Nintendo, quoi. C'est pour ça que franchement, j'avais misé sur le bon cheval dès le départ.
J'ai joué à Mario Kart juste hier avec des potes, donc je vois exactement. C'est vraiment, la Switch, c'est la dernière. C'est la dernière des consoles qui permet un peu de t'amuser. Et encore, tu sais, le concept, c'est quand même, si tu veux, tu peux juste la prendre pour toi et être comme ça. <C'est> genre, je la vois derrière toi, Chris.
Ouais.
Je ne sais pas quel jeu elle a dedans, mais oui.
Elle a Mario. On a refait des petites balades sur l'île Delfino.
Ah, magnifique, magnifique. Je pense que là, on finit le podcast, je vais rentrer chez moi, ça part sur Delfino, je pense.
On arrive déjà sur les questions de la fin, et on a commencé à en parler, mais c'est quoi les jeux auxquels tu joues en ce moment ?
Alors, moi je suis resté toujours un peu Nintendo centré, donc surtout Switch. Là, cette année, j'ai surtout joué à Tears of the Kingdom, le dernier Zelda. Je joue toujours aux jeux de GameCube de l'époque, donc Mario Sunshine, je l'ai refait sur Switch pour le coup, mais comme tu dis, tous les jeux multi, j'y joue toujours avec plaisir, mais même parfois, tu sais, comme j'ai toutes mes boîtes et tout, parfois je me ressors un jeu, je sais pas, je me suis refait Tony Hawk Underground 2 dernièrement, tu vois, des trucs un peu à l'ancienne, mais j'avoue que là c'est plus la nostalgie qui joue, parce que je sais qu'il y a eu Skate 3 et qu'il y a eu des jeux beaucoup mieux depuis, mais tu vois, par nostalgie, j'aime bien. Et après, dans les nouveaux jeux, surtout Nintendo, je joue un peu sur PC, mais en fait, je suis plus... là, j'ai un Mac et du coup, c'est un peu plus galère. Donc, j'avoue que j'ai eu une grosse, grosse période où je jouais sur PC à Counter-Strike, à Trackmania, des jeux comme ça. Là, c'est un peu moins le cas dernièrement. Donc, globalement, je me fais des jeux solo, principalement Nintendo sur Switch. et des jeux nostalgie plutôt en multi ou alors juste refait les mêmes jeux qu'à l'époque, quoi, par plaisir.
Est-ce qu'il y a un peu d'émulateur ou pas du tout?
Non, j'ai pas trop joué. Enfin, à l'époque, je jouais beaucoup sur émulateur là, mais j'avoue que ça me trotte dans la tête cette idée de.
Parce que sur Mac, mon grand frère est un peu comme toi, et lui, émulateur for life, genre il ouvre tout, il a fini Diddy Congressing deux fois cette année.
Waouh, magnifique.
T'es lâchant. Ah.
En vrai, ça me chauffe un peu, ouais. Notamment Zelda ou Wind Waker, s'ils veulent pas le ressortir, peut-être ça partir en émulateur pour avoir, tu vois, un peu upscaler un petit peu les graphismes, etc. Je pense que ça peut être plutôt cool. En plus, j'ai vu qu'ils ont mis des modes en ligne sur des jeux multijoueurs qui n'avaient pas de mode en ligne de base. C'est incroyable, ça, quand même.
Genre, ouais, l'émulateur, maintenant, c'est devenu... Ouais, c'est devenu un truc de ouf.
Non, c'est cool.
En émulateur, il y a aussi des mecs qui ont fait un Mario Kart maison. Genre, ils créent des maps qui sont claquées du cul, elles sont trop nulles, mais genre, tout le monde, tu peux jouer en ligne à ça, et genre, c'est très très drôle.
Ok. Et ouais, avant que j'oublie, sinon, j'aime beaucoup beaucoup les jeux indés, surtout les jeux qui sont faits par peu de gens. J'ai joué cet hiver, j'ai fait Undertale. Je me souviens que l'année dernière, enfin, les années de Covid, globalement, depuis les années de Covid, j'ai beaucoup joué à Stardew Valley. J'ai beaucoup joué tout seul, puis aussi, après j'ai beaucoup joué avec ma meuf. Ça, c'est des jeux que j'aime bien, tu vois, un peu retrouver la patte de quelqu'un, tu vois, qui fait son jeu solo, qui conçoit tout de A à Z, et ça crée un vrai mood. C'est vrai que je suis assez sensible, je pense, aux univers en général, tu vois, dans les jeux, et du coup les jeux qui ont un fort univers, ça m'attire plus.
Ouais, sans compromis, quoi, pas trop lisse, mais vraiment avec une forte identité.
Ouais, c'est une vraie patte, quoi. Ouais.
Dernièrement, dans ces jeux là il y a Tunic. Je sais pas si t'as joué.
Oui, avec le renard un peu à la Zelda. J'y ai pas joué, mais c'est sur ma liste, ouais, tout à fait.
Il est sorti sur Switch et c'est une version un peu limitée et tout, avec la carte et tout. Il est très très beau. Ils ont fait un truc très bien.
Mais il est bien quand même?
Ah, moi je trouve très bien, mais c'est sur Switch. Je trouve qu'il est fait pour être joué sur Switch, ce jeu. C'est genre.
Ah, d'accord.
Enfin, ta petite console et y jouer plutôt que d'y jouer sur PC. Tu peux y jouer sur PC, évidemment. Mais...
D'accord. Bah, j'avoue que ça me branche pas mal. Il y a un côté un peu cyclique aussi pour moi des jeux vidéo où l'été j'essaye de sortir un peu plus, il fait beau et tout ça. Mais alors l'hiver, ah oui, j'ai fait Hogwarts Legacy. J'oublie, les jeux me reviennent au fur et à mesure, mais j'ai passé quand même, il y a eu quand même tout l'hiver dernier sur Hogwarts Legacy qui est sorti un peu tard parce que pour moi la saison Harry Potter elle commence en octobre et je crois qu'ils l'ont sorti en février. Donc, mais j'ai bien aimé être dans le mood, tu vois, de Poudlard et tout pendant, j'ai bien joué un bon mois, peut-être 2 mois. Ça, j'ai bien kiffé aussi. Ouais, mais ce type de jeu me plaît bien, tu vois, où tu rentres dans un vrai univers et tu te balades et ça, c'est cool.
Trop bien. Est-ce que t'as un mot de la fin pour nous avant qu'on se quitte?
Non, bah écoutez, continuez à jouer aux vieux jeux, ça fait toujours plaisir. gardez vos manettes de l'époque, faites attention à vos consoles parce que voilà, si elles finissent péter, c'est compliqué. Mais non, mais même, qui sait, genre peut-être la Switch, ma console actuelle, peut-être dans 10-15 ans, j'y rejouerai encore. Sur les jeux qui me mettent des frappes maintenant, tu vois. Donc, je trouve ça que c'est beau aussi d'imaginer aussi que, certes, il y a Call of Duty et il y a FIFA chaque année et tout, mais en fait, il y a aussi des jeux, tu vois, qui peuvent te marquer un moment et que tu gardes aussi toute ta vie. Et c'est cool. Mais sans pour autant faire le nostalgique, parce que Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, moi, j'ai pris ma grosse frappe, j'adore ces jeux. Enfin, c'est des jeux récents, ça, tu vois. Mais voilà, c'est cool de. En fait, quand j'ai découvert les jeux vidéo à l'époque, je pensais pas que j'y jouerais encore, enfin, j'aurais encore au même type de jeu autant d'années plus tard, tu vois. C'est ça qui me fout un peu le vertige, limite, en me disant, putain, ça m'a plu à un tel point que ça me suit encore maintenant, quoi.
D'ailleurs, une dernière question, mais liée à ça, est-ce qu'à l'époque, t'avais vendu tes jeux et t'as dû les racheter, ou la plupart des jeux GameCube, etc., tu les as gardés direct?
Alors, non, j'ai jamais vendu mes jeux. Peut-être un ou deux jeux nuls, mais en vrai, tous mes classiques, je les ai encore sur GameCube. Enter the Matrix, je l'ai toujours. J'ai toujours les jeux qui m'avaient marqué à l'époque. J'ai gardé mes manettes aussi. J'ai toujours les manettes de l'époque. Malheureusement, ma Wavebird, c'est-à-dire la manette sans fil grise, a cramé. Les piles ont cramé dedans il y a un an. Donc ça, c'était un peu un coup dur pour moi, parce que c'est une manette sur laquelle j'ai beaucoup beaucoup joué. En fait, j'avais juste revendu la GameCube pour pouvoir m'acheter la Wii. Mais du coup, j'ai racheté une GameCube d'occasion des années plus tard quand la Wii a été pétée. Mais c'était pas un move très intelligent, c'est juste que je crois que j'avais besoin d'argent à l'époque pour m'acheter la Wii. Et j'avais revendu la GameCube. Mais j'ai gardé quand même les Game Boy Advance que j'avais à l'époque, je les ai toujours par exemple.
Cool. Bah, merci beaucoup, les règlements.
Merci à vous.
Ciao. Merci.
c'était Du Temps et des Jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine !